Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Église évangélique de Mérin. Vous soyez ici en présentiel ou à distance pour ceux qui nous regardent depuis Internet. Alors aujourd'hui, on va vivre un culte un petit peu spécial parce qu'il va y avoir un thème central. Vous avez des indices devant, il y a une grande carte du monde. Le thème central, ça va être la mission. Et je suis content de voir que les enfants sont déjà appropriés. Les dictionnaires que j'ai mis devant, j'ai un petit quelque chose à vous demander pour commencer ce culte. Est-ce que vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire la définition du mot « mission » ? Mission. Vous pouvez le faire à deux si vous voulez. Et idéalement, il me faudra que tu puisses me lire ou lire à toute l'assemblée la définition que tu auras trouvée. On ne va pas utiliser de smartphone, ça aurait été plus rapide, mais c'est quand même important de servir des dictionnaires. Ça commence par un M, effectivement. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne cherche plus dans le dictionnaire. Vous avez le droit de réfléchir dans votre tête à quelle est la définition du mot mission aussi également. Bon, il y a plusieurs définitions, mais moi ce qui m'intéresse, ça va être, on va dire, la première. Alors, tu as trouvé ou pas ? Tu as trouvé la mission ou pas ? T'es à la bonne lettre, c'est bien déjà. Il faut qu'il y ait des... Attends, ça presse. Ah, alors, est-ce que tu peux me lire la première définition que tu vois ?
Bien sûr, ok. Attends. Mission, ce que l'on est chargé de faire... Attends, sa mission... Attends. Faire ce qu'on est chargé de faire, il s'est bien acquitté de sa mission... Organiser religieux.
Oui, moi, c'était la première définition qui m'allait. Donc, si je redis ce que tu as dit, parce que j'ai eu la même définition, c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de la mission, étant donné qu'on est à l'Église, c'est la mission chrétienne. Être chrétien, c'est assez simple, je vous fais grâce d'aller chercher la définition du mot chrétien. Pardon. Je vous fais grâce de la définition du mot chrétien, qui veut dire qui professe la foi en Jésus-Christ. Alors si on met la mission chrétienne, aujourd'hui, on peut vite comprendre que toutes les personnes que vous voyez ici, elles ont une charge qui, en fait, revient d'annoncer la foi en Jésus-Christ à travers le monde. Et c'est ce qu'on veut mettre à l'honneur ce matin. Je vais prendre un petit temps pour prier pour vous, les enfants. Et après, j'invite l'équipe Louange à monter sur scène pour le chant. Oui, Seigneur, je te remets le culte de ce matin. Je te prie pour les jeunes enfants qu'on a ici. Je te prie pour vraiment que les moniteurs qui seront là ont aussi, eux, leur mission, Seigneur, de pouvoir leur transmettre la foi en Jésus-Christ. Et je te remets pleinement leur cœur d'enfant ouvert à ta parole. Je te remets ce culte qu'on va pouvoir vivre tous ensemble et te prie que nous puissions sentir ta paix ce matin. Amen.
Bonjour. On va prendre deux chants de louange. Le premier, c'est un nouveau chant de notre répertoire. Alors, il n'est sans doute pas très connu. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, laissez-vous lire les paroles et puis... entendre ce qui va être chanté, et puis il y a 5 couplets, donc peut-être d'ici là, vous pourrez nous rejoindre aussi dans la voix. Voilà, j'aimerais ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance.
Mmh. J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Cette parole qui a engendré tout ce que tu as voulu s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Je fais monter vers toi un refrain mélodieux avec la liberté d'un enfant face au Père et l'étrange frayeur d'un pécheur devant Dieu. Je donne la croix pour âme et l'agneau pour sauveur. Je triomphe à genoux et sors de cette lutte. Vainqueur et tout meurtri, mais vainqueur.
Alors mon âme
Alors, j'invite les enfants à rejoindre leur moniteur pour l'école du dimanche. Et en même temps, j'invite tous mes collègues du groupe Mission à venir sur la scène. Oui, on le fait d'ici. Alors, comme dit au début du culte, aujourd'hui, on avait à cœur de pouvoir vraiment mettre nos missionnaires à l'honneur ce matin. Et on a préparé une petite présentation pour les parcourir et vous parler un petit peu de leur situation à chacune et à chacun. Donc voilà, tour de rôle, toutes les personnes que nous sommes du groupe Mission. Il en manque effectivement, mais voilà, en tout cas, on va pouvoir vous dire un petit mot sur chacun de nos missionnaires. Donc on peut passer à la slide d'après, on va voyager un petit peu. Voilà.
Alors c'est pour moi. Annette et Flavien Negrini. C'est un couple missionnaire, pasteur missionnaire, depuis plus de 20 ans en France. Accompagné par notre communauté, depuis environ 13-14 ans, lors de leur venue à Poitiers pour implanter là-bas une église, qui aujourd'hui, après 12 ans, est toujours là. Oui, pardon. Aujourd'hui, Flavien exerce, aidé par Annette, le ministère de pasteur et d'accompagnant pour deux communautés en Alsace, en France. La première, elle se trouve à Molsheim, pour un projet immobilier que cette communauté a, mais elle a une vision plus que cela, une dynamique d'église, elle voudrait ouverte sur le monde. La deuxième communauté se trouve à Célesta, à quelques 30-40 km de là, une plus grande communauté d'environ 100 personnes. Flavien, là, les accompagne dans une démarche d'une nouvelle implantation par un essaimage de leur communauté. Deux chantiers différents pour Flavien, mais tous deux orientés sur le souci de rejoindre ceux qui sont perdus.
Alors moi, je vais vous parler de Olivier et Gabriella Wenger. Alors, ils habitent en Alsace, près de Mulhouse, en France. Et Olivier travaille avec la WEC. La WEC, c'est une organisation qui accompagne les gens qui se préparent à la mission. Et lui, il est dans l'informatique. Il gère l'informatique dans la WEC. Et bientôt, il va partir au Ghana pour une conférence avec la WEC. Et puis, ils viennent d'avoir un bébé qui s'appelle Alena et qui a 2 mois. Elle est née un peu plus de 2 mois. Elle est née le 10 août 2024. Donc, voilà, il s'occupe aussi du bébé.
On va applaudir le
petit bébé. C'est les Sewell, hein? Roger et Dominique. Ils sont là... entre pierres, le service de pierres vivantes. Vous êtes bienvenus aussi chez eux, hein? Vous pouvez vous faire rendez-vous chez eux. Mais le service, c'est d'accueillir les missionnaires qui prennent la pause pendant le temps des vacances, et puis ils peuvent aller... Et puis là-bas, ils sont dans le service pour soutenir les missionnaires et les autres qui passent chez eux. C'est Roger et Dominique.
Alors, Joshua, là, on part carrément au Brésil. Alors, c'est le fils de David et Pearl, de notre église. Donc il vit au Brésil et sa mission à lui, elle consiste à mener des actions d'évangélisation au sein des écoles et d'adolescents. Donc, on a eu quelques chiffres en octobre 2023, parce qu'on a des contacts avec lui assez réguliers, mais c'est vrai qu'il nous avait fait une belle vidéo pour tout expliquer ce qu'il avait pu nous faire. En octobre 2023, en fait, il travaillait auprès de 90 jeunes qui, toutes les semaines, venaient suivre leurs ateliers. Et en gros, ces 90 jeunes étaient répartis auprès de 6 établissements différents. Donc c'est quand même assez grand comme mission. Et en fait, ils nous disaient en octobre qu'ils avaient pour mission de continuer à trouver un ou deux lycées en plus dans lesquels ils pourraient encore toucher plus de jeunes. Donc voilà, ça, c'est la mission que Joshua porte avec d'autres personnes. Et entre autres, vous aviez contribué l'année dernière aussi à l'achat d'une voiture, parce que forcément, 6 établissements, voilà, il doit pas mal se promener et il utilise les transports en commun. On a pu discuter avec Pearl et bon, ça prend du temps. La somme n'est pas encore complète pour acheter un véhicule. Donc ce projet devrait se concrétiser tout bientôt et on vous fera une vidéo le jour où ce sera le cas. Voilà.
Jean-Claude et Lycia Chaillant, ils viennent de notre église. Ils ont été ici. J'ai fait un coffee bar avec eux à l'époque. Il y a longtemps. Depuis plus de 30 ans qu'ils exercent leur ministère en Italie, de pasteur, puis ensuite d'accompagnant, de débriefing, d'aide sociale, etc. Ensemble, les Asiatiques sont en Italie. Ils sont envoyés par notre Église, soutenus jusqu'à peu avant leur retraite par la FRAE. Ils exercent encore actuellement dans divers ministères à Fucecchio, je ne devrais jamais le dire, près de Florence. Ce ministère, arbre de vie, est fait de relations d'aide, d'accompagnement de personnes, d'aide sociale par le truchement de vestiaires, distribution de nourriture, cours de langue, aide scolaire et l'organisation de camps familles, des cours pour couples et des visites pastorales d'églises. Des services nécessaires dans ce beau pays d'Italie. Que Dieu les fortifie.
Alors Manon Muller, c'est une enfant de notre église. Sa famille a été longtemps engagée dans les EM. Maintenant, ils sont partis un peu loin en France pour leur retraite. Alors, elle est partie au Tchad il y a 3 ans, pour une année. Et puis, elle y est toujours. Ça, je trouve formidable parce que quand le Seigneur appelle quelqu'un à partir en mission, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Voilà, alors elle fait un travail qui s'appelle « Reflet d'espérance ». Parmi les enfants de la rue. C'est de manière très concrète de mettre en œuvre l'évangile pour des jeunes qui sont complètement à la rue, comme on ne le voit pas chez nous. Et elle donnait ce titre à son travail, « Donner aux jeunes qui vivent dans la rue un espoir et un avenir à travers l'amour de Dieu ». Elle n'est pas toute seule, ils sont une équipe de 10 personnes, d'une dizaine de personnes, tous des Tchadiens, sauf elle. Et cette année, elle fait un break, elle fait une pause pour 6 mois de formation en France et 6 mois de visite d'église pour repartir en juillet 2025 au Tchad pour suivre son ministère.
Voilà, c'est Dr Tony Uchetti. Lui, il travaille dans la. Où ils sont à Ituri, à Bunia, l'est du Congo, à la frontière avec l'Uganda. Et puis il travaille dans la maladie de onchocercose, oui. C'est la maladie des yeux. Comme il est ophtalmologue, Il travaille dedans pour essayer d'éradiquer, mais c'est difficile d'éradiquer, mais peut-être de diminuer. Mais il y avait 30 millions de la République démocrate du Congo, ils sont impliqués dans cette maladie. Et puis son travail est là-bas, avec la recherche du.
Moi, je parle de Lionel, qui est un enfant de cette assemblée, 23 ans, l'âge de Nadia, et que nous soutenons et qui vient de partir à l'école Pierre. Donc, Pierre est une école créative à Lyon qui forme en une année des chrétiens à l'audiovisuel, la louange, la théologie, le leadership et l'entrepreneuriat pour l'Église, pardon. Et Lionel y est pour cette année scolaire.
Voilà, quelques-uns de nos envoyés. On pense encore à Maïka qui vient de rentrer, et qui, du Népal, je crois, et qui, bien sûr, va continuer à se former, fait des études pour aller encore plus loin. Tous ces envoyés, excuse-moi, vous les avez dans ce petit panneau avec une carte du monde. Chacune de ces photos que vous avez vues se retrouve ici, des envoyés actuels, on essaie de le tenir à jour. Et puis, il y a une petite flèche qui indique l'endroit où ils servent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bas de chacune de ces petites cartes, vous avez une adresse e-mail. Et alors, nous vous encourageons, les uns et les autres, même si vous ne les connaissez pas très bien, une fois à leur envoyer un petit message de soutien, un verset biblique qui vous a fait plaisir, une petite attention, enfin, voilà. On est là, on est avec toi, en église, en communauté, on ne t'oublie pas. Voilà ce qu'on peut faire et ce que je vous encourage, nous vous encourageons à faire, de relever ces adresses. Ce tableau est pendu là-bas, près de, dans le foyer, et il est à votre disposition.
C'est moi qui ai dit de prier. Et du coup, on va vous proposer de prier en église pour eux, d'avoir un temps tous ensemble, pour leur adresser voilà, une prière de soutien et de pensée pour eux. Je vais commencer. Oui, Seigneur, tu vois la richesse de chacune des personnes envoyées que nous avons à l'Église. Seigneur, toi seul connais leur situation, leurs défis, et je veux vraiment te prier ce matin pour que chacune et chacun ressente ta présence et notre soutien ici à Mérin en tant qu'Église. Je te prie que tu puisses les encourager, les fortifier pour continuer leur œuvre là où ils sont. Je te prie de pouvoir enlever les embûches qui pourraient être sur leur chemin et permettre qu'ils puissent continuer de te connaître un peu mieux, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Amen.
Les meilleurs sentiments pour cette formation et que tu la conduises pour ce future mission qu'elle veut se servir. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, donne la jambe t'appartient et je te prie que tu puisses pourvoir l'achat de cette voiture pour Yeshua au Brésil pour qu'il puisse mieux attendre ses enfants qu'il a tellement à cœur. Pourvois, Seigneur, parce que tu es ce Dieu-là. Et nous bénissons, nous disons merci pour ces jeunes, pour l'amour qu'il a pour les jeunes de la rue. Et que tu les gardes, que tu les protèges dans tous ces déplacements. Amen.
C'est beaucoup dans ce problème unique qui a traversé les problèmes de santé. Afin que tu sois avec elle jour après jour, à côté du projet. Que tu puisses bénéficier maintenant vraiment de ta présence, de ta main guérissante sur eux, dans toute leur activité future. Amen.
Seigneur, nous t'apportons Olivier et Gabriella. Merci de leur avoir donné cette petite fille il y a 2 mois. Et nous te demandons de bénir cette famille et aussi de les renouveler dans leur engagement, que tu puisses résonner dans leur cœur pour leur montrer la suite de leur mission. Amen.
Lionel entretient
Amen. Merci pour. J'invite Marie-Léa à venir nous parler d'une autre action qui se passe au-delà de nos frontières.
Bonjour. Je suis ici pour vous présenter l'action des paquets de Noël. Ça prend 3 minutes 5. Restez attentifs, c'est parti. Alors, Noël pour moi. Slide 2. Merci. Noël pour moi, c'est être en famille. C'est manger beaucoup de gâteaux, recevoir plein de cadeaux, mettre de jolies tenues, faire des jeux de société. Et même l'année dernière, j'ai eu une crise de foie. Malheureusement, pour certains, Noël, c'est pas ça. Certains sont dans une grande pauvreté, d'autres vivent en zone de guerre, d'autres n'ont plus tous les membres de leur famille. Et ces quatre associations, avant même ma naissance, donc il y a plus de 27 ans, ils se sont dit « tout le monde mérite d'avoir un bout de la joie de Noël ». Donc voilà, leur action, c'est qu'ils distribuent, l'année dernière il y a eu 120 800 paquets distribués dans 7 pays parmi les plus démunis. Donc il y a Bélarus, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Kosovo, Albanie. C'est un petit rappel de géographie et à la fin je désigne une personne qui monte sur scène et qui nous redit les prénoms des pays. Et ça fait 38 semi-remorques. Je rigole, ne stressez pas. Ensuite, donc, il y a la confection de paquets pour les plus démunis. Donc, c'est et les adultes et les enfants de 6 à 16 ans. C'est un contenu très précis. Ça permet une distribution équitable sur place et puis c'est très important pour le passage des douanes. Donc, il y a quoi dans ces paquets? Il y a de la nourriture, du riz, des pâtes, du café. Et pour le plaisir de tous, il y a des bonbons et du chocolat. Il y a aussi, pour les enfants, des peluches, coucou Olaf. Il y a aussi des feutres, il y a des cahiers. Je laisse un peu qu'on puisse regarder les photos. Il y a aussi des jouets, donc il y a des puzzles, des voitures, des balles, des bulles de savon. Et des chats. Ah non, non, pas des chats, pardon. Il y a aussi de très jolis bonnets. Donc, comment est-ce qu'on peut participer, nous? Il y a des contributions possibles en nature. Donc, pour ceux qui savent tricoter, vous pouvez faire des belles écharpes, des bonnets, donc pour les adultes et les enfants. Il y a de la laine à disposition, là, à l'entrée dans le foyer. Il faut qu'il soit neuf, bien sûr. Ce sont des cadeaux. Et on peut aussi amener des jouets. Donc, tout ce que j'ai dit, les peluches, les puzzles, les bulles de savon. Donc, voilà, pour les enfants à partir de 6 ans, donc neuf ou comme neuf. Et il y a aussi... Ça marche bien, ça. Il y a aussi des récoltes de fonds qui permettent d'acheter les contenus des paquets. Parce que donc, pour avoir des bons prix, il y a des achats en grande quantité qui sont faits. Et on profite aussi des promotions dans les magasins. Donc, par exemple, là, avec la rentrée de septembre des écoliers, on a profité pour acheter les fournitures scolaires. Et il y a donc des tirelires en carton qui sont disponibles à la sortie ou dans le foyer. Pour tout renseignement, s'adresser à Annick Dubost ou à Anne-Marie Wenger. Merci de votre attention. Et le chrono est nickel.
Alors à présent, j'invite Sylvain à monter.
Je vais prendre le... Voilà, bonjour. Alors, ceux qui me connaissent m'ont sûrement entendu une fois ou l'autre parler du Laos, un pays cher à mon cœur, que je visite souvent. Et justement, j'y étais ce printemps, pour 6 semaines. Sauf erreur, c'était ma 36e visite depuis 1975. Je ne suis plus très sûr de compter juste. Non, je ne peux pas vous parler du Laos aujourd'hui sans évoquer le souvenir d'Armand Henninger, bien sûr, qui nous a quittés il y a juste une semaine, parce que c'est à travers lui, en 1971-72, que mon ex-épouse et moi, qui n'étions pas encore mariés, avons formé le projet de partir au Laos. Elle pour 2 ans, moi pour 4, enfin ensemble, d'abord elle pour 2 ans, ensuite ensemble pour 4, sans savoir jusqu'où ça allait nous amener. Et puis c'est encore à travers Armand Henninger que la suite du parcours nous a amenés ici, à Bellevue et à Mérin. En 1984, après 7 ans de service en France parmi les réfugiés, parce qu'entre-temps, la mission dans laquelle nous avions travaillé avait fermé ses portes, parce que le Laos était devenu un pays communiste, pour le dire en bref. J'ai oublié. Alors, le Laos, un pays de contraste. Vous avez un TGV construit par les Chinois, bon, avec une grosse dette pour le Laos, mais voilà. Vous avez des véhicules électriques en ville, que je n'ai même pas vu ici. Vous avez des téléphones portables, ça depuis longtemps, partout, jusqu'au fin fond des villages, mais en même temps, ouais, vous avez des routes avec des éclairages par panneaux solaires. Donc il y a tout ça, mais en même temps, dans les villages reculés, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de toilettes, des services de santé qui existent mais qui sont assez faibles, et puis un système éducatif qui est très déficient parce que, par exemple, assez souvent, les instituteurs ne sont pas assez payés, donc ils vont travailler au champ la moitié de l'année. Les parents, des fois, ils envoient un enfant le matin puis le petit frère l'après-midi. Vous voyez ce que ça donne. Alors, je reviens un petit peu sur les... j'espère que je suis juste... Voilà, sur différents aspects du voyage. Alors, une grande partie, c'est des relations personnelles. C'est visiter des gens, c'est visiter des expatriés qui travaillent là, ou des amis laotiens, des églises. Et puis, entre autres... pas mal de nouvelles personnes qui sont parties travailler récemment et certains, je ne les connaissais même pas encore. Et justement, j'étais très encouragé de voir des jeunes qui se sont engagés. Ici, vous avez les Bruns à droite. C'est des gens qui ont le même âge que l'âge à laquelle je suis parti au Laos il y a un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle. Et puis... l'autre à gauche, c'est Karine. C'est une fille qui s'est engagée pour 6 mois, il y a 3 ans, pour aller faire un stage de 6 mois. Je l'ai vue pendant qu'elle était à l'école biblique, à l'Institut biblique de Genève. Et puis elle est toujours là-bas. Elle a appris la langue. Elle prend en charge un projet compliqué à Saravan. Voilà, je trouve que c'est génial de voir l'engagement de ces gens. Puis une autre partie du travail, c'est un travail que je fais avec le pasteur Van et le docteur Pafik. Pasteur Van qui est à Lyon, le docteur Pafik qui est là-bas, sur l'histoire de l'Église en Laotien, et en particulier des choses qu'a écrit le docteur Pafik, parce que c'est important pour les Laotiens, la plupart d'entre eux ne connaissent même pas leur origine. Et puis, il y a tout un travail de réseautage qui permet de mettre en contact des gens que j'ai connus il y a longtemps avec des gens qui sont arrivés maintenant, des organisations diverses. Voilà. Et je me suis trouvé à un moment où je me disais qu'avec Van, on était à un moment stratégique pour une coopération entre le SFE, qui est une organisation quand même dirigée par des Européens, et puis une organisation locale, une fondation, Et il y a, voilà, il y a une énorme différence culturelle, une différence de moyens. Et voilà, moi, je me trouvais un peu en parlant la langue, en étant quelque part entre deux avec les gens. Alors, je vous ai parlé du SFE en bref. Le SFE, c'est ça, c'est 3/4 de siècle de mission suisse qui a été à l'origine de l'Église, qui s'arrête en 1975. Pendant 20 ans, on fait des visites. C'est très compliqué de faire quelque chose dans ce pays communiste, mais quand même, on a pu maintenir des contacts et finalement, créer une nouvelle organisation qui s'appelle Service Fraternel d'Entraide, qui a maintenant un peu plus de 25 ans, et qui travaille de manière complètement différente, parce qu'on est essentiellement dans le développement, on ne fait pas d'évangélisation ni de travail d'église, mais on le fait au nom du Christ. Et je vois tous ces jeunes là-bas, ils sont tout à fait conscients d'être sur les épaules des anciens missionnaires qui ont apporté l'évangile dans ce pays. Et le SFE maintenant, c'est une équipe d'une... 20, je crois qu'il y a autour 25 expatriés, je ne sais plus combien de travailleurs locaux, ou une quarantaine de collaborateurs locaux. Voilà. Alors, les partenariats, je ne vais peut-être pas trop en parler, mais simplement vous dire que c'est un petit peu l'évolution des choses. Maintenant, c'est qu'une ONG, on essaye de travailler au maximum en partenariat avec des organisations locales, mais c'est un processus qui n'est pas simple et qui prend du temps. Alors, pour terminer, j'aimerais vous parler un peu de l'Église d'aujourd'hui. Voilà. Une Église qui a à la fois pas mal de liberté, et dans certains endroits, même plus que chez nous. Dans la capitale, il y a 2-3 ans, ils ont organisé une monstre réunion dans un stade, un peu d'évangélisation, hein, avec des haut-parleurs et de la musique qui s'entendaient loin à la ronde. Ils ont obtenu l'autorisation de faire ça. On n'arriverait pas à faire ça ici. En même temps, les gens sont très surveillés. Mais un peu tout est très surveillé dans ce régime où c'est le parti qui est vraiment l'organe dominant depuis les villages jusqu'au sommet du gouvernement. Et les chrétiens sont quand même considérés comme quelque chose de difficile à contrôler, qui a beaucoup de liens avec l'étranger. Donc, on a une certaine méfiance quand même qui existe à l'égard des chrétiens, qui ressemble un petit peu à la méfiance qu'on a, nous, à l'égard des musulmans. Donc, il y a une certaine surveillance. Mais en même temps, il y a dans les endroits reculés maintenant des persécutions qui continuent, alors que d'après la loi, les chrétiens ont la liberté d'exercer, mais c'est dû plus à des raisons religieuses qu'à des raisons politiques. C'est ce qui se passe, il y a un clash avec l'animisme, et quand il y a des gens qui se convertissent et qui ne participent plus aux cérémonies destinées à apaiser les esprits, les gens prennent peur. Si quelqu'un tombe malade, ben voilà, ça va être à cause d'eux. Et dans beaucoup d'endroits, il y a des nouveaux chrétiens, parfois même des anciens chrétiens, qui se font jeter du village, parfois arrêter, parfois même il est arrivé qu'on brûle leur maison ou leur récolte. Donc il y a régulièrement des événements qui arrivent. Et puis normalement, les autorités devraient les protéger, mais voilà, c'est un peu des conflits locaux, et puis c'est aussi l'idée, eh ben voilà, c'est des gens qui viennent perturber la paix sociale. Alors voilà, les gens sont entre cette liberté, cette surveillance et ces persécutions. Il faut prier pour eux. Mais j'insiste sur la solidarité qu'on a avec eux et qui persiste. Déjà dire qu'aujourd'hui, les chrétiens sont environ 150 000, peut-être plus. En 1975, quand les missionnaires sont partis, ils étaient 15 000. Donc, l'Église s'est multipliée par 10 sans présence de missionnaires. Et pour moi, c'est vraiment le signe que la semence, hein, de l'Évangile qui a été plantée, elle a pris racine dans le pays. Ce n'est pas seulement une religion étrangère. C'est vraiment quelque chose qui a pris racine dans le pays. Et pour vous dire, Armand Henniger, on va avoir un service mardi après-midi. Les Laotiens à Savannakhet, ils vont faire un service en même temps. Parce qu'ils sont reconnaissants à l'égard des anciens missionnaires et ils ont besoin de manifester cette reconnaissance en même temps. Alors voilà, si certains sont intéressés à avoir plus de détails, il me reste quelques exemplaires d'une brochure qui a été faite pour l'année dernière pour les 25 ans du service fraternel d'entraide, et puis j'ai toujours des exemplaires de livres qui avaient été écrits pour le centenaire de la mission, l'Évangile au pays du million d'éléphants. J'en ai quelques-uns avec moi. Voilà. Alors merci de garder ce pays et les chrétiens de ce pays dans vos prières.
Merci pour ces différents témoignages, ces différents apports. Quel est le lien entre cette dizaine d'envoyés, entre vous, entre nous, entre les églises de Suisse, les églises de partout? C'est cet amour du Christ et ensemble, on forme une église. Hein, il y a des bras, il y a des mains, il y a des pieds, il y a des yeux, comme le dit la parole, et nous formons ensemble tous une église. Et c'est le champ qu'on veut prendre maintenant, une seule Église, issue du même Créateur, issue de l'amour du Seigneur. Et ce sera l'occasion aussi de demander l'offrande, de donner votre offrande pendant ce chant-là. C'est une occasion aussi de soutenir à notre manière les différentes missions, notre pasteur aussi, notre Église. Et donc c'est pour ça qu'il y aura l'offrande maintenant. Et on pense aussi aux offrandes qui sont faites par CCP depuis chez vous. Tout ça soutient, tout ça forme l'Église, une seule Église.
Nous sommes une seule Église.
élu de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité, on verra que nous sommes d'ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élevé Jésus, et que son salut soit répandu.
Pour les offrandes. Oui, Seigneur, je te remercie pour les dons que chacune et chacun peut faire à l'Église. Merci de bénir nos finances. Je te prie qu'on puisse continuer ton œuvre ici à Mérin avec ces dons. Et je te prie de également bénir Paul Robert pour la petite méditation qu'il nous a préparée ce matin. Amen.
Nous n'avons qu'un seul Père, qu'un seul Roi, qu'une seule foi. Et c'est quelque chose, si vous avez l'occasion de visiter d'autres églises de par le monde, j'ai eu l'occasion de le faire relativement souvent et de partager avec eux, dans le cadre de la Commission France et après de la Commission Europe, et bien entendu avec d'autres églises ailleurs. Et c'est incroyable de sentir, quand on va visiter ces églises, cette unité. Ce qui nous réunit, c'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. C'est incroyable de ressentir ça dans le chant, dans la louange, dans le partage. On ose prier. C'est super. Nous allons lire un texte dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 4 à 8. Et je remercie Noémie qui va le lire pour nous.
De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer du grain. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba dans les ronces qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, les plantes poussèrent et produisirent des épis, chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. »
Merci Noémie. Cette parabole, cette histoire que Jésus a racontée, se retrouve dans les trois premiers évangiles de la Bible, Matthieu, Marc et Luc. Presque mot pour mot, la même chose. Elle n'est pas dans l'évangile de Jean, par contre. Et cette parabole se termine par cette phrase un peu étonnante du Christ, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 8. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Combien de fois ai-je lu ou entendu cette parabole ? Et vous ? 10 fois ? 20 fois ? 100 fois ? Peut-être 1000 fois ? En tout cas, souvent. Je la connais presque par cœur, l'histoire du grain qui tombe. Et je l'ai d'ailleurs utilisée il n'y a pas longtemps, dernièrement, dans un temps de partage avec une personne en recherche de la vérité et en recherche de Jésus. La Bible, moi je l'ai aussi sur la tablette, mais la Bible, on dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ? Pardon ? Si la Bible est parole de Dieu, si on croit que Dieu vit et qu'il vit en nous aujourd'hui, etc., en Jésus-Christ, la Bible est alors une parole vivante. Là aussi, vous êtes d'accord ? Une parole vivante. Mais pourquoi ? Ou comment elle devient parole vivante ? Comment ? Car tout à coup, ça nous surprend. Vous lisez un texte que vous avez déjà lu 50 fois, 100 fois, 1000 fois, entendu prêcher dessus, etc. Un texte, une parabole, un verset, un psaume, quelque chose de vous qui est connu, que vous avez déjà lu. Et tout à coup, un mot, une phrase, une pensée ressort particulièrement et s'impose à vous. Vous l'avez déjà lu 20 fois, enfin moi je l'ai déjà dit ça, et tout à coup un mot que vous n'avez jamais fait attention particulièrement s'impose à vous, s'impose à votre esprit. C'est ce qui m'est arrivé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lire la Bible avec les oreilles du cœur. Je la lis souvent, pas haute voix, je la lis silencieusement. Je l'entends à l'intérieur de moi. La lire avec les oreilles du cœur, prêt à se laisser surprendre, être disponible à une nouvelle écoute, à un nouveau message. Et la Bible devient alors pour vous comme pour moi, parole de Dieu. Parole vivante de Dieu. La Bible. Ce n'est pas qu'un bouquin. Oui, ça n'a pas de valeur. Mais c'est ce qu'il contient. C'est cette parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. L'autre jour, il y a quelque temps, relisant ce texte, cette parabole pour la 1e fois, un mot est ressorti, a pris du relief, s'est imposé à moi. Il est au tout commencement de l'histoire. Au tout commencement de l'histoire. Je lis Luc 8, verset 5, la première phrase de cette parabole. Un semeur sortit pour semer du grain, ou semer la semence. Un semeur sortit pour semer du grain. Ce mot, ce verbe, est dans les 3 évangiles. J'ai regardé, même dans la Chouraki, vous savez, celle qui... J'ai été regardé, c'est toujours... Le mot sortir, il est là. Un semeur sorti pour semer du grain. Le Christ aurait pu dire, ou on aurait pu traduire en disant, un semeur sema dans son champ du grain. Mais non. Tout à coup, je me dis, mais pourquoi le Christ propose cette phrase, un semeur sorti pour semer du grain. Que veut souligner ce petit mot pour nous aujourd'hui ? Que veut dire sortir ? Pour le semeur, sortir, c'est ouvrir la porte, en premier. et des portes, il y en a des belles et des solides. J'en ai fait pas mal dans ma vie. Sortir, c'est quitter son chez-soi. Quitter la chaleur du foyer, de son lit peut-être bien confortable. Quitter certaines sécurités pour aller dehors, à tout vent, par n'importe quel temps. Sortir, c'est le vouloir. Faire le pas, ouvrir la porte. Allez. Sortir, on ne sort pas tout nu, hein, c'est s'équiper. S'habiller en conséquence de ce pourquoi on sort. Si je vais faire du sport, si je vais labourer le terrain, ou si je prends la voiture, ou si je vais dans une réunion. Choisir les bonnes chaussures, surtout ceux qui font de la montagne. Pas vrai, David, hein? Tu ne mets pas les petites chaussures là quand tu vas faire un petit trek dans les Alpes. Sortir pour le travail qui nous attend, ou le ministère qui nous attend, le service, le bénévolat. Sortir, c'est s'équiper en conséquence. Sortir pour le semeur, c'est aussi choisir sa semence. Il ne sort pas les mains vides, puisqu'il sort pour semer. Pour le semeur, c'est la connaître, cette semence, la reconnaître. Si je désire du blé, je ne vais pas semer de l'avoine. Donc c'est connaître le matériel, le matériau, la semence qu'il va faire. Sortir, c'est aussi avoir appris à semer. Avoir préparé son champ, peut-être un ou deux jours avant, labourer, retourner, préparer la terre. Sortir, c'est aussi s'être nourri, pris son petit déjeuner, avoir pris des forces pour tenir le coup toute la journée. Alors des fois, il y a une petite pause de midi, mais des fois, il n'y a pas. Dans certains pays, il n'y a pas. Hein. Donc sortir, c'est aussi se nourrir pour prendre des forces, etc. Sortir, pour y rajouter beaucoup de choses. Comme le chômeur, nous pouvons être appelés pour semer. Le Christ dit bien, après, c'est semer la parole de Dieu. Pour porter l'amour de Dieu au monde, on va le chanter tout à l'heure. Être simplement, peut-être, simplement chrétien, témoin, là où nous sommes, à la maison, au travail, à l'école, au collège, à l'uni, etc., etc. En apprentissage. Sortir, pour nous, si on accepte cela, c'est quitter notre confort. Mais pas seulement le confort matériel. Hein. Parce que moi, je connais des missionnaires qui ne sont pas très loin sur France. Ils vivent aussi bien que nous. Bon, ils ont quitté la famille, ils sont un peu plus loin. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, le WhatsApp, c'est magnifique. Mais quitter peut-être notre confort intérieur, je dois l'apprendre et je l'apprends encore. Être ouvert à des habitudes nouvelles. Et je veux dire, ça, c'est pas facile. Vous voyez, après quand même bien quelques années, je me suis converti à 18 ans, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a des choses qui sont là-dedans puis qui ont de la peine à changer. Et pourtant, je désire. Oser la collaboration avec des autres, sortir, c'est aussi ça, c'est oser. Ne pas avoir peur, comptant sur celui que je crains et dont je n'ai pas peur. Sortir pour servir Dieu, c'est aussi s'équiper en conséquence, se préparer, étudier, pas vrai, Maïka ? Ou d'autres. Avoir un minimum de bagage, savoir choisir sa semence. C'est aussi connaître ou reconnaître l'endroit où nous sommes appelés à semer. Peut-être avec les autres, avec l'Église, hein, tout ça. Ce n'est pas toujours tout seul. Mais connaître et reconnaître l'endroit, préparer l'endroit. Moi, j'aimais bien quand on était avec des nouveaux candidat missionnaire en France, alors c'était pratique en France, on pouvait aller, bon, des fois il nous fallait quelques heures de route, hein. Quand on allait à Bordeaux pour les Pioux ou à Auch, plusieurs fois pour les Abruzzaises, hein, qui sont venus prêcher ici d'ailleurs, c'était 7-8 heures de route. Hein. Mais enfin, j'aimais bien prendre... On va sentir le terrain. On va aller visiter cette église en tant que groupe, commission d'envoi. Ressentir... Et c'est vrai que c'est souvent sur place qu'on sent les choses. Pas toujours. Hein, faut être, là aussi, il faut être ouvert. Donc, connaître, reconnaître l'endroit. Et puis, bien sûr, c'est s'être nourri. Nourri de la communion avec Dieu par la lecture de sa parole vivante, par la prière, par le partage en famille ou avec les frères et les sœurs dans l'Église. C'est aussi sortir, être en forme, en paix. Ça, c'est important, en paix avec chacun. Pas avoir des casseroles. Et compter sur la présence de Dieu par Jésus-Christ à nos côtés. Compter sur lui, sur son accompagnement. Compter sur la prière des autres qui nous envoient. La prière de la famille, de l'Église qui nous envoie semer. Tu désires semer la bonne nouvelle de l'Évangile ? Sors ! Tu aimerais proclamer l'amour de Dieu autour de toi ? Sors ! Tu veux être témoin de Jésus-Christ dans ton entourage ? Sors ! Tu veux répandre la parole de Dieu ? Sors ! Un semeur sorti pour semer. Amen.
Préparer la pour la scène. J'ai juste partager un petit peu. Dernièrement, j'étais chez moi, dans mon pays. Et si vous me connaissez pas, je viens de les îles Fidji. C'est très très loin. Et si vous êtes dans l'avion et vous fermez les yeux quand vous passez, vous ratez. C'est tellement si grand. 500 000 km² de l'eau. Hein. Je parle de la Seine parce que quand j'étais chez moi, j'avais le métume contre mon père. Mais il est déjà décédé, ça fait depuis 1999. Et j'ai réalisé, j'avais gardé toujours. Mais la famille là-bas, ils n'ont que le bon souvenir de lui. Mais j'étais très étonné avec ça. Je disais, pourquoi toutes ces années que je suis chrétien, j'ai travaillé avec la Jeunesse Mission, et je gardais toujours cette métume. Et puis, parce que je priais, je posais mes fardeaux devant le Seigneur. Et plus tard, je reprends. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Dans mes valises, j'avais toutes les choses que j'avais gardées. Normalement, c'est déjà pourri après 30, 40 ans. Mais mes filles m'ont dit toujours des choses. Pourquoi tu gardes autant de choses? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Je garde énormément de choses. Je ne me souviens plus que j'avais toutes ces choses-là. Et puis, je vais vous lire un texte qui m'a tellement touché, l'amour, hein, au Corinthiens 13. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'arrête point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est vrai, si le Seigneur nous avait fait tout sur la croix. Pourquoi j'ai de garder tout ça? Est-ce que c'est facile à enlever? Avec le Seigneur, on arrive. Je vais lire le texte pour la scène. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même ce que ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même.
Oui, Seigneur. Je te prie pour ce temps de sainte scène que nous allons vivre en communauté. Je te prie que, de manière personnelle, on puisse tout mettre à plat devant toi, Seigneur, pour que, à la lumière de ta parole, on puisse balayer, Seigneur, ce qui n'est pas de ta volonté pour notre vie. Et je te prie que tu puisses chacune et chacun nous renforcer, Seigneur, pour la semaine qui nous attend. Amen. Alors, nous avons du vin à l'extérieur et du jus de raisin dans les gobelets orange. Merci à l'équipe Louange. Le culte touche à sa fin. Cependant, j'ai encore quelques petites annonces à vous faire. Alors, ce mardi 8 octobre à 14h au CEPOM, il y aura un culte d'adieu et de reconnaissance pour Armand Heinegger. Voilà, il y aura beaucoup de monde, donc il vous est recommandé de venir assez tôt. Et à la fin du culte, ici, pardon. Et en transport public, effectivement, c'est encore mieux. Il y aura de la place pour les voitures. À la fin du culte, l'idée, c'est de aussi pouvoir faire des piles de chaises pour qu'on puisse faire un moment après la cérémonie ici dans ces locaux. Donc, c'est les forces vives. Oui. La collation aura lieu ici. Pardon. C'est encore plus clair comme ça. Exact. Ensuite, mercredi 9 octobre, parole et silence à 18h à la chapelle. Enfin, le 18 octobre, concert avec le groupe Écriture qui s'affiche à l'écran. C'est dans 2 semaines, donc si vous n'avez pas encore vos places, eh bien c'est le moment. Il ne faut pas hésiter à pouvoir se diriger vers Thierry à la sortie pour acheter sans avoir besoin de s'embêter avec Internet. Et dernière annonce, il y a des personnes qui se tiennent à disposition à la fin du culte pour prier pour vous. Ils ont un badge pour cela et ils se tiennent normalement proche de la scène. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction d'envoi. Cette bénédiction, je l'emprunte au site Top Chrétien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le voir chaque jour. Il poste pas mal de choses. J'ai trouvé cette prière qui était intéressante. Je vous la partage. Ô Père, donne-moi la force d'accomplir ma mission et la sagesse de ne pas m'éloigner de toi. Aide-moi à me discipliner afin de te suivre jusqu'au bout. Dans le précieux nom de Jésus, amen. Allez dans la joie du service. Bon dimanche.